Un mineur n'est pas en situation irrégulière, ça n'existe pas. Un mineur n'est pas tenu d'avoir une autorisation ou un titre de séjour. Un mineur déjà n'est pas responsable forcément de tous ses actes. Un mineur, qu'il soit étranger ou pas, quand il est en danger ou en difficulté, doit pouvoir bénéficier de tous les droits, qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux, en matière de protection de l'enfance.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être.
Un mineur qui arrive en France illégalement ne peut être renvoyé sous le motif qu'il n'a pas de papier. Aussi, le pays dans lequel il arrive et qu'il a parfois, mais pas toujours, choisi, lui doit une assistance. Dans l'Hérault, une structure, RAI, Réseau Accueil Insertion Hérault, suit chaque année une trentaine de jeunes migrants en situation d'errance. La moitié de ces jeunes sont d'origine marocaine et franchissent le détroit de Gibraltar, soit pour transiter par l'Espagne, ou arrivent directement à Sète avec la liaison régulière Tanger-Sète. Comment ces jeunes migrants sont-ils repérés par l'association ? Quel suivi effectue l'association auprès d'eux ? Et puis, considérant qu'ils ne peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine quand ils sont mineurs, que se passe-t-il quand ils atteignent la majorité ? Voici un reportage dans la structure RAI de Montpellier lors d'un goûter improvisé avec Daniel Martin, chef de projet, Anna, salariée de RAI, et Abdel Mounim, qui fut accompagné par l'association en tant que mineur et qui reste en contact avec l'association tandis qu'il est majeur et régularisé.
Et alors l'association RAI s'occupe effectivement de l'accueil et de la prise en charge de mineurs étrangers isolés, c'est-à-dire des jeunes qui sont sans référent familial sur le territoire et très souvent en situation de dénuement et d'errance aussi. L'association a été créée en 2002 par des éducateurs qui, chacun travaillant dans différentes structures, s'étaient rendu compte que cette population échappait un petit peu facilement à tous les dispositifs qui pouvaient leur être proposés. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient amenés dans des foyers, par exemple, ils rentraient par la porte et le lendemain, ils repartaient par peur, par crainte, par incompréhension des éducateurs du foyer de l'enfance de Montpellier, qui a beaucoup travaillé sur le projet, de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse aussi, se sont mis ensemble pour réfléchir à la création d'une structure un peu spécifique dédiée à ce public-là. L'idée étant d'aller à leur rencontre aussi, parce que c'est un public de jeunes qui a surtout tendance à se cacher, parce qu'il ne connaît pas les lois, parce qu'il vit un petit peu dans la peur et dans la crainte des institutions. Donc l'idée étant d'aller à leur rencontre et de leur proposer une alternative finalement à l'errance dans laquelle ils risquent de s'enfoncer. Pourquoi ? Ah oui, tu voulais pas qu'on te l'enlève l'autre fois, tu me disais, oh, je suis bien avec mon plâtre.
Ah,
t'as la cicatrice, hein.
J'ai encore les deux broches, ils sont toujours là, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, c'est, ça vous gêne, on peut les retirer, si ça vous gêne pas, on peut les garder.
Mais ils vont pas te les laisser tout le temps, si ?
Non.
Un jour, ils te les enlèveront.
Il
en
fait tous ses comptes.
Et sur les radios, tout va bien ?
Ouais, c'est bien.
Tu as pas mal.
Non, ça va.
Alors, comment ils arrivent en France ? Il y a beaucoup de possibilités. Ça peut aller du jeune qui rêve depuis des années sur le port de Tanger au Maroc de venir vivre en Europe et en France et qui va finir par attraper un bateau et franchir les frontières un petit peu en cachette. Ça, et jusqu'à des jeunes qui viennent de pays bien plus lointains par le biais de réseaux d'immigration clandestine, on peut dire ça comme ça, hein, qui fournissent les visas, et des jeunes qui sont en fait victimes et qui sont pris dans des trafics d'êtres humains, et qui arrivent en France, et puis qui se retrouvent, j'allais dire, tant mieux pour eux à certains moments, dégagés des réseaux dans lesquels ils sont pris, et qui finissent par atterrir dans des structures comme la nôtre. Sur l'ensemble des jeunes qu'on reçoit chaque année, on va dire que la moitié à peu près viennent du Maroc, l'autre moitié se répartissant dans divers pays. Hein, nous avons chaque année des jeunes qui nous sont amenés ou qui nous rencontrent, qui arrivent de Chine, ou qui arrivent après de pays d'Afrique subsaharienne, comme le Congo, Kinshasa cette année, ou la Côte d'Ivoire l'année dernière. Nous avons eu un jeune qui était en errance, qui arrivait de Russie, il y a un an ou deux. Donc en fait, globalement, pays du Sud, hein, essentiellement, bon, mis à part la Russie, et puis des jeunes où la dimension, effectivement, du rêve européen est très importante, quoi. Nous avons également des jeunes qui sont partis en crise, hein, dans le cadre de fuites, parce qu'ils étaient victimes de violences ou de terreurs dans leur pays, et qui sont là en France pour se réfugier. C'est vrai qu'à Montpellier, il y a une particularité, c'est que nous ne sommes pas un grand lieu de passage en termes de flux migratoires. Nous sommes vraiment dans un lieu, un territoire, on va dire, d'errance, mis à part les jeunes qui arrivent du Maroc, éventuellement par le bateau à 7, où là, on peut éventuellement tracer un trajet migratoire, on va dire, classique. On n'est pas du tout confronté aux mêmes problématiques que Paris, région parisienne. Ce qui nous laisse la possibilité de travailler, non pas sur la gestion de flux migratoires, mais vraiment sur des projets éducatifs avec des jeunes en grande difficulté.
Moi, c'est Al-Shati, mon prénom, c'est Abdelmounim.
T'as rencontré Raï à quel moment ?
La fin 2004. Je passais la première année 2005 ici. Jusqu'à 2006, la fin 2006, j'étais plus chez l'association, j'étais à l'hôtel, chez l'ASE, je crois.
Et là maintenant, tu viens de temps en temps alors, ici ?
De temps en temps ici, oui, bien sûr, parce que je suis toujours en contact avec eux, parce que c'est pour leur dire bonjour, si j'ai un problème, quelque chose, je ne comprends pas, je viens ici, je comprends, ils m'expliquent comment on peut faire. C'est bon.
Et toi, pendant ton passage à Rai, en fait, t'es arrivé, t'avais rien, et qu'est-ce que t'as construit avec eux ?
Que voilà, ils m'ont accompagné, ils m'ont pris l'hôtel parce que je ne connaissais pas là où je vais aller. Donc, après, voilà, après ils m'ont pris l'hôtel, après ils m'ont trouvé une autre 4S. Voilà, je restais jusqu'à. En fait, quand je suis arrivé ici, j'avais l'âge de 16 ans. J'ai resté avec eux jusqu'à que j'avais l'âge de 18 ans. Quoi. Après, à 18 ans, j'ai trouvé un travail, donc je travaille. J'ai mon petit chez moi. J'ai la prise en charge toujours. Donc ça va. Maintenant, je suis en arrêt de travail. Là.
Et sinon, donc, une fois que tu es passé, tu as eu tes 18 ans. Là, tu as eu tes papiers. Comment ça s'est passé ?
Ouais, juste après, j'avais mes papiers. J'ai commencé à les voir depuis 18 ans. Ouais. Depuis que j'avais 18 ans, j'ai eu mes papiers. Donc, voilà.
Et là, soulagement.
Oui, ici. Parce que je travaille dans le quartier, j'habite dans le quartier aussi.
Pour les rencontrer, c'est vrai que depuis des années, on essaye de se faire connaître. Nous avons notre première action, c'est d'avoir un accueil quotidien, sans rendez-vous ouvert, en essayant d'être très accessible dans un local du centre-ville à Montpellier. Et puis sinon, nous allons aussi dans différents quartiers nous faire connaître, nous faire repérer par des commerçants, par des intervenants sociaux, des animateurs de quartier ou je ne sais qui, des gens qui peuvent éventuellement relayer, être un relais pour nous. Nous allons aussi dans la rue pour nous faire repérer physiquement, parce que n'oublions pas que nous avons affaire à des jeunes qui n'ont pas du tout l'habitude ou la culture d'aller frapper à la porte des services sociaux. Donc le fait qu'ils nous repèrent physiquement, ça peut aussi faciliter un premier contact ultérieur. C'est pour ça que la plupart du temps, les jeunes qui viennent nous voir pour la première fois sont accompagnés par quelqu'un qui a entendu parler de nous, ou qui nous connaît très bien, ou qui nous connaît un petit peu. Et c'est comme ça que le lien se fait.
Il n'y a pas de chiffre précis hein, sur ces jeunes qui arrivent ici dans la région Languedoc, ou plus exactement sur l'Hérault. Il semblerait qu'il y ait 300 jeunes. Hein, c'est une étude de 98, je crois, qui l'a démontré. Et vous ne voyez qu'une infime partie hein, de ces jeunes.
Oui, c'est vrai qu'il y a une étude qui avait été faite en 98 sur l'errance des jeunes à Montpellier, Béziers, Sète, en fait, sur certaines villes du département, qui estimait qu'il y avait peut-être 2 à 300 jeunes de étrangers, comme ça, isolés, qui vivaient un peu cachés. Chaque année, même si cette année, on est largement en dessous de ces chiffres-là, mais quand même, on a une moyenne annuelle. En gros, on rencontre 20 à 30 jeunes nouveaux chaque année qu'on ne connaissait pas. Qui s'ajoutent à ceux que nous connaissons déjà et avec qui maintenant on travaille dans l'accompagnement éducatif. Donc c'est vrai que c'est une partie visible uniquement d'un phénomène. Hein. De toute façon, C'est extrêmement compliqué de faire des chiffres là-dessus. Il faudrait faire des diagnostics plus poussés. À mon avis, ça serait peut-être intéressant de regarder ce qui se passe aussi dans d'autres villes, hein, comme du côté de Sète, par exemple, sur le bassin d'Otto, parce que pour ceux qui arrivent du bateau à Sète, est-ce qu'ils restent à Sète ou est-ce qu'ils viennent tous à Montpellier? Tout ça, c'est des choses qui mériteraient d'être un peu approfondies.
Il fallait qu'il y ait une particularité parce que les jours de son anniversaire cette année, en octobre, comme on sait qu'il est très bien intégré dans la société française, je pense que c'est, je ne veux pas dire les seuls Marocains qui aiment ça, mais bon, quand même, c'est un peu bizarre. Parmi nos jeunes, il adore les camemberts. Donc, donc, le jour de son anniversaire, au lieu d'acheter un gâteau, on a pris une forme de camembert avec deux bougies et on a fait rigoler. Avec ça, voilà, preuve d'intégration.
Dans un premier temps, on leur propose des choses extrêmement basiques qui sont d'avoir un abri, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, de commencer à se poser dans leur parcours. Et une fois qu'ils se sont posés, de commencer à réfléchir un peu à leur présent, à leur futur proche. Et lorsqu'on arrive à justement avoir posé les choses avec le jeune, lorsqu'on a réussi à contacter sa famille dans son pays d'origine pour comprendre un peu la dimension familiale qui a pu jouer dans ce grand voyage, ben voilà, poser les choses, voir avec le jeune quelles sont ses intentions, comprendre un peu quelles sont ses compétences, et ensuite ben, définir un projet d'avenir. Au moins à court terme avec lui. Officiellement, ensuite, nous le mettons en contact officiel avec les institutions françaises. Je pense au juge pour enfants qui va statuer sur le sort de ce jeune et qui va officialiser les mesures de protection qui sont ensuite mises en œuvre par le Conseil général et les services de l'aide sociale à l'enfance. Mesures de protection, puis mesures aussi de tutelle, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas de parents ici, donc qui sont mineurs réellement isolés. Et tous ces dispositifs-là, administratifs, judiciaires, vont leur permettre ensuite d'avoir un vrai statut et d'exister en France. Un statut qui leur permettra ensuite d'être scolarisés, qui leur permettra d'entrer, on va dire, un peu plus officiellement dans des foyers d'accueil. Et en fait, voilà, et puis être pris en charge de façon éducative.
Ce toit, ça passe pas forcément par un foyer, mais ça peut passer aussi eh bien, par un hébergement dans les hôtels. Alors pourquoi cette solution?
Ça paraît toujours un peu choquant de parler de ça, surtout pour quand il s'agit d'y mettre des jeunes mineurs. Mais c'est vrai que par expérience, et notamment par l'expérience de ceux qui ont créé l'association RAI, il s'avérait que des jeunes, bon évidemment, je parle à partir d'un certain âge, des jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, qui ont un vécu déjà dans la rue qui est des fois très ancien, même dans leur pays d'origine, se retrouver du jour au lendemain dans un foyer, dans un collectif, parfois un petit peu agité, un peu tendu, avec des règlements qu'ils doivent absorber comme ça instantanément, ben ça les incitait à repartir vite en courant le lendemain. Donc afin d'éviter ça et ces retours, ces échecs et des retours à la rue, parfois on préfère utiliser un mode d'hébergement qui est un peu plus souple, qui pose un minimum de cadre et qui permet peut-être aux jeunes de sortir de la rue, on va dire, de façon progressive sans se heurter trop brutalement à des cadres trop rigides. Alors bien sûr, l'hôtel c'est que du temporaire, hein, une fois que le jeune rentre ensuite, que ça soit à l'école ou en formation professionnelle ou autre, il a besoin de cadres d'hébergement et d'accompagnement bien plus étroits, mais c'est progressivement qu'on essaye de mettre en place les choses pour éviter un échec, parce qu'effectivement la rue est notre plus grand concurrent, on va dire, et face à trop de difficultés ou autre, ben, la tentation de repartir dans la fuite est parfois un peu forte pour eux, quoi.
Tu peux dire d'où tu venais?
Je viens du Maroc. Non, de Tanger à 7, quoi. Voilà, j'étais un mineur isolé, je me suis retrouvé en France. C'est la seule solution, donc je suis venu ici.
Alors bon, j'imagine que ça doit être difficile d'en parler, hein, de ce départ du Maroc, ça a dû être un peu compliqué. Quel était ton sentiment une fois que tu es arrivé, tu as mis les premiers pas sur le sol français?
Parce que je pensais que j'ai pas trop vu ce que j'ai pensé, moi, quand j'étais chez moi là-bas. Donc voilà, c'est notre vie là-bas, c'est notre vie, c'est pas pareil, donc c'est tout changé, quoi, c'est pas... Après, tu commences une autre vie depuis le début, si vous voulez. Donc, voilà. Je suis allé à l'école, à la PAEJ, pour apprendre la langue française. J'ai resté depuis 2005-2006, et puis voilà. Après, j'ai arrêté à l'école, j'ai trouvé un stage. C'est là où j'ai commencé à travailler dans la restauration.
Alors on sait bien qu'effectivement en situation d'errance, on peut faire des mauvaises rencontres, on peut tomber dans la délinquance, ce serait facile même pour eux, j'imagine. Donc une de vos deuxièmes missions, et sans doute une des plus importantes, c'est aussi que leur passage en France leur serve à avoir une formation, à apprendre la langue par exemple, et intégrer en fait donc une formation ou tout simplement l'école, et ça se passe avec l'éducation nationale, c'est très important.
Oui, l'éducation nationale est effectivement un partenaire très, très important. C'est vrai que ces jeunes qui arrivent ici, qui sont mineurs, qui ont, on va dire, entre 13, 14, 15, 16, 17 ans, c'est un âge où ben, la vie, l'avenir se construit. Donc, il y a une idée qui pour nous est très, très importante, c'est de leur permettre de se doter, pendant leur séjour en France, quel que soit l'avenir, de ce qu'on appelle un passeport de compétences, c'est-à-dire un certain nombre d'acquisitions, qu'elles soient intellectuelles ou pratiques, qui leur sera utile, de toute façon, plus tard dans leur vie, qu'elle se passe en France ou ailleurs. Alors, là, l'école, effectivement, pour nous, c'est la voie royale. L'apprentissage de la langue, pour ceux qui ne sont pas connaisseurs du français, la langue écrite, parler, la remise à niveau, éventuellement des scolarisations qui les amènent à des formations professionnelles par la suite. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Quoi. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, notamment à partir de 16 ans, il ne nous reste que ça. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut débuter un contrat d'apprentissage, il ne peut pas à 16 ans. Ou alors il doit bénéficier d'une autorisation de travail délivrée par la préfecture. Et cette autorisation de travail est délivrée un petit peu après une instruction qui relève de la même instruction qu'une demande de titre de séjour. Alors comme ils ne sont pas tout à fait dans les clous au niveau de leur entrée en France, tout ce qui est formation rémunérée leur est interdit. Donc, à partir de 16 ans, mis à part l'école, en termes de lieu de formation et d'apprentissage de savoir ou de savoir-faire, ben il ne nous reste pas grand-chose. Quant à là pour objectif de la uniquement, enfin dans un premier temps de mettre au niveau en français tout ça, là je dirais que la réussite elle est quasi absolue. Maintenant après si c'est un processus de formation professionnelle d'un CAP en 2 ans, bon ben des fois ils décrochent. C'est vrai que pris par d'autres difficultés, ils arrivent pas forcément jusqu'au bout. Quand même l'un dans l'autre, ils essayent quand même de s'accrocher au maximum. Mais c'est vrai que ces jeunes qui arrivent à 16 ans, qui sont pris en charge, qui ensuite commencent un cursus scolaire, à un moment donné, il y a une pression terrible qui commence à peser sur leur tête, qui est celle de l'âge, hein, lorsqu'ils arrivent à l'âge de la majorité, à 18 ans. Il y a l'épée de Damoclès de la question du titre de séjour qui commence à leur peser, et puis qui des fois peut envahir un peu leur esprit, au point que même l'école, ben, ils commencent à lâcher prise un petit peu. Quoi.
Oui, parce que c'est ça, finalement, peut-être la plus grande frustration, c'est-à-dire que vous suivez des mineurs, on l'a dit tout à l'heure, donc quand ils sont mineurs, ils n'ont pas forcément besoin de papier, ils ne sont pas administrativement en situation irrégulière. En revanche, dès qu'ils ont 18 ans, eh bien là, ils tombent sous le coup de la loi, et la loi étant durcie, bien souvent, ils ne rentrent pas du tout dans les cadres hein, de la régularisation. Ça, c'est la plus grande frustration. Comment ça se passe pour eux après ? Est-ce que vous les suivez encore ?
Ben, la frustration, elle intervient si jamais il y a un rejet de leur demande de titre de séjour. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a souvent des bonnes surprises parce que c'est des jeunes qui ont montré à quel point ils étaient motivés pour s'intégrer, pour s'insérer en France. Ils n'ont pas fait trop de conneries, on va dire. Et c'est vrai que quand ils ont montré qu'ils ben, étaient tout à fait motivés, quand ils ont fait des stages et qu'il y a un employeur qui veut les garder, qui est prêt à signer une promesse d'embauche ou à les prendre en contrat d'apprentissage, ben, en général, les choses finissent pas trop mal au niveau des papiers. Bon, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, ben, y a un petit passif judiciaire qui fait que ça va être rédhibitoire pour eux à la majorité. Ce qui est frustrant, finalement, c'est que ce sont des jeunes qui doivent être encore mieux que n'importe quel jeune, parce que vous prenez un mineur qui fait des conneries dans sa minorité, bah à 18 ans, bah on passe l'éponge, et puis si c'est pas des grosses conneries, on en parle plus. Alors que eux, non, ça va les poursuivre, et à 18 ans, au contraire, c'est là qu'ils vont solder les comptes. Quoi. Donc c'est des jeunes qui doivent être encore plus irréprochables que n'importe quel jeune. Et alors ils le savent, et puis c'est vrai qu'on les motive toujours là-dessus, mais la frustration, elle est un peu là. Quoi. C'est-à-dire que le moindre faux pas, ils vont le payer cash au moment de leur majorité.
Donc quand t'es arrivé en France, en fait, la langue française, tu la maîtrisais pas forcément.
Non, je connais pas, même pas un mot français. Après, j'ai appris français petit à petit, tu vois. Parce que quand je suis allé à l'école, donc j'ai commencé à apprendre le français A, B, C. Après, ça rentre petit à petit. J'ai appris à parler, écrire un petit peu. J'arrive bien à lire, pas de problème. Ça, j'ai un problème de l'écriture, en fait, finalement. Je sais pas des fois je sais pas la phrase avec quoi ça finit à la fin, avec S ou avec.
Daniel Martin, le chef de projet de rail, l'a dit, ces jeunes n'ont pas le droit à l'erreur, encore moins si l'on peut dire qu'un jeune français. Si le jeune tombe dans la délinquance, il a peu de chances alors d'être régularisé. Le principal adversaire, au-delà de l'administration préfectorale qui délivre les papiers, c'est la rue. À tout moment, ces jeunes peuvent rebasculer dans la promiscuité, la délinquance. C'est pourquoi le travail patient de rail semble indispensable. Rail est financé pour les deux tiers par le Conseil général de l'Hérault, qui a en charge le volet protection de l'enfance, et par l'État, dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. Le site internet rail.monsite.wanadu.fr. Un grand merci à toute l'équipe de Rail et puis aux jeunes présents ce jour-là.
Il est invité à la playa. Grand. Il va prendre 2 fois par semaine.